Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent. Dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs, bienvenue à cette toute nouvelle émission de La Photo Média en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir, autour de la table, on a trois chroniqueurs qui viennent se joindre à nous pour trois sujets haut en couleur. Donc nous avons Francis Terrien, nous avons également Tessie Jean-Paul ainsi que Myriam Bernet. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Il y a des chroniqueuses aussi. Hein,
des chroniqueuses. Ben en fait, j'aurais dû dire chroniqueuses parce qu'il y a une majorité de chroniqueuses
bien
autour
vu,
de la table.
Bien très bien.
Mais à coup le pas. Donc bienvenue à vous, chers chroniqueuses. Donc ce soir, trois sujets. Premièrement, on va parler avec Francis des médias locaux. Ensuite, plus tard, on va parler des médias américains. États-Uniens, pardon. Maintenant, Francis, tes origines saguenéennes te rattrapent un peu. Tu nous parles de couverture médiatique régionale.
Exactement. Donc, Maillot, Saint-André de l'Épouvante, Notre-Dame des Sept Douleurs, Rapide Danseur ou Rivière aux Graines. Oui. Ce sont tous des noms de villes et de villages du Québec. Puis, je pense qu'on peut s'entendre qu'on les connaît pas. En tout cas, moi, je les connais pas. Puis, pourquoi? Peut-être que c'est parce qu'il manque de couverture médiatique régional dans les médias nationaux au Québec, parce qu'ils sont largement sous-représentés. Parfois, c'est pour le meilleur, parce que, par exemple, Notre-Dame des Sept Douleurs, j'ai pas besoin de plus de douleurs que j'en ai déjà. Mais parfois, c'est pour le pire. Cette semaine, le 29 septembre, en fait, Le Devoir a publié un article sur, j'ouvre les guillemets, le préjugé favorable affiché mardi par le gouvernement Trudeau envers l'exportation du gaz naturel. Premièrement, what the fuck? Genre, Trudeau, qui promettait l'environnement, il y a du gaz parce que c'est 2016, on veut en exporter, c'est bizarre. Mais je sais pas si on passait où les belles promesses environnementales, mais bon. Pour revenir à l'article, on ajoute que ça a de quoi réjouir un prometteur d'un autre projet gazier majeur, qui doit s'implanter au Québec, Énergie Saguenay. Donc là, il y a un groupe qui prépare un projet de 7,5 milliards de dollars avec la construction d'un gazoduc de 650 kilomètres. Ce projet-là, c'est un projet controversé dont on parle depuis un bon moment au Saguenay, où il y a un port qui peut être construit dans une des communautés sur le bord de la rivière Saguenay. Aucune des communautés n'a donné son aval pour le moment. Puis le gaz qui viendrait de là viendrait principalement des gaz de schiste de l'Ouest canadien. Pourtant, aucun média en parle. Le seul qui en a parlé, c'est Le Devoir, qui a parlé dans cet article-là et dans quelques autres de ça. Le reste des médias nationaux, nulle part.
Aucune mention. Puis, ça serait pas plutôt la faute à l'absence des journalistes affectés à ces dossiers-là, les dossiers environnementaux? Est-ce que ça serait une des causes du problème?
Ben, c'est sûr que ça a un impact, à mon avis, tout comme le fait que les journalistes, quand ils sont affectés à des questions environnementales, rarement leurs articles vont faire la une. Les enjeux environnementaux, c'est pas super popu, comme on pourrait dire. Mais quand même, NRJS, par exemple, bénéficie d'une couverture médiatique somme toute importante dans les médias à travers le Québec. À titre de comparaison, dans les 6 derniers mois, les mentions Énergie Saguenay ont apparu dans 11 produits médiatiques. Là. C'est tous des articles du Devoir. Énergie Est est apparu dans 4315 articles au Québec sur la même période. En Abitibi, par exemple, j'ai comparé, parce que je me suis dit, c'est peut-être juste cet enjeu-là, le projet lié à la mine de ciel ouvert à Malartic. Par exemple, le regroupement qui milite contre, Revima, il y a 27 mentions à travers le Québec sur cet article-là. Coule pas chez nous, 46, qui s'oppose aux oléoducs. Puis, par exemple, le BAP de Malartic, 191 articles ou télé, puis Énergie Est, 616. Donc, on voit qu'il y a une disproportion assez importante entre les enjeux environnementaux régionaux puis les enjeux environnementaux qui passent par l'agglomération métropolitaine de Montréal, même si les impacts environnementaux des projets miniers à ciel ouvert en Abitibi ou de liquéfaction de gaz à Saguenay sont majeurs aussi, tu sais.
Oui, même... ça passe même pas du simple au double, là. C'est parfois 5, 6, 10 fois plus abordé, ces enjeux-là montréalais.
Exactement. Puis pourtant, le complexe de gaz à Saguenay, c'est, le but c'est de transporter par gazoduc, liquéfier le gaz. Mais selon les documents, ça passe, il va y avoir 160 navires chaque année qui vont faire des allers-retours dans la rivière Saguenay, alors que c'est un parc marin pour protéger l'habitat du beluga. Donc, on a dit que le beluga est en grave, était en état critique.
Oui, puis il y a eu toute cette grosse levée de bouclier contre l'établissement d'un port méthanier, je pense, à Kakuna, justement, là où il y avait une pouponnière à beluga.
Exactement. Puis là, on en parle juste dans Le Devoir une fois. Mais d'ailleurs, merci au Devoir. Là, mais...
merci au Devoir. Puis comment est-ce que tu expliquerais davantage ce phénomène-là?
C'est que, comme je disais, d'après moi, c'est en fait que le tracé d'Énergie S passe par Montréal où... Oui, il y a la moitié du Québec qui habite, donc c'est important d'en parler aussi. Mais c'est aussi où une immense proportion de l'information au Québec est produite. Il y a très peu d'informations qui est diffusée qui vient d'ailleurs. La presse, Le Devoir, Québécois, Radio-Canada ont tous leur bureau à Montréal. Oui. La presse a une entente avec ses anciens journaux qui leur appartenaient dans les régions. Puis Radio-Canada aussi a des bureaux en région. Mais l'information qui est produite en région reste en région. L'information produite à Montréal sur Montréal... devient d'une importance nationale parce que les journalistes ont décidé.
Donc, non seulement les gros médias sont basés à Montréal, mais ils sont aussi très, très montréalocentristes.
Exact. Puis c'est un peu... Même si les gens viennent d'ailleurs, et une fois qu'ils arrivent à Montréal, ils s'intéressent aux enjeux montréalais, c'est un peu la même question que quand, il y a longtemps, les journalistes étaient locataires parce qu'ils étaient un peu moins riches qu'ils sont en ce moment. On parlait d'enjeux liés au logement. Maintenant, ils parlent d'hypothèques. C'est le même genre... de proportion.
Mais Francis, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait pas être aussi lié, tu sais, le phénomène de plus quelque chose arrive près de chez toi, plus ça t'intéresse, et plus c'est lointain, moins ça t'intéresse, un peu ce qui cause, disons, le manque de présence d'informations internationales dans les médias?
Ben oui, peut-être, mais l'affaire, c'est qu'il y a quand même 4 millions de Québécois qui habitent, et Québécoises qui habitent pas à Montréal. Donc,
Que les gens, les 4 millions qui habitent à Montréal, c'est extrêmement concentré. Ils habitent tous à Montréal, tandis que les 4 autres millions habitent sur une surface assez étendue du Québec, non?
Oui, clairement. Mais je pense que ce genre d'impact environnementaux, par exemple, qu'un problème avec un port de liquéfaction de gaz à Saguenay va avoir des impacts sur le fleuve Saint-Laurent, OK, vers l'océan, mais ça a un impact sur une grande partie du Québec. Puis juste ce fait-là devrait faire qu'on en parle, mais aussi le fait qu'il y a des gens qui habitent... Il y a 250 000 personnes qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même 250 000 personnes qui seraient peut-être intéressées à en entendre parler avec plus de moyens que Rouge FM ou Le Quotidien ont à Saguenay pour
absolument,
enquêter.
Absolument, oui.
Puis c'est des sujets d'importance aussi graves que ceux qui nous touchent davantage ici à Montréal, mais juste parce qu'ils se passent loin, on n'en parle pas.
C'est ça. Puis il y a comme une reproduction des sujets... Si un média parle d'un sujet, un autre média va en parler, et ainsi de suite. Donc,
effet domino.
Exact. Si personne n'en parle, personne ne va reprendre la nouvelle ailleurs, puis on n'en parlera jamais.
Mais merci beaucoup, Francis.
Ça fait plaisir.
Vous écoutez toujours la Photomédia sur choc.ca. Maintenant, on va aller voir Tessie. Tessie Jean-Paul qui va nous parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien sous la lunette médiatique états-unienne.
Oui, effectivement. Aujourd'hui, je décide d'en parler justement à cause de la mort d'un des pères fondateurs justement d'Israël moderne, de l'Israël moderne en fait, Shimon Peres, qui est mort la semaine passée.
Oui.
Plusieurs personnages politiques importants se sont présentés à ses obsèques, tels que notre premier ministre Justin Trudeau, même Jean Chrétien et Stephen Harper, le président des États-Unis aussi. Donc, en fait, un bref rappel, je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails, qu'est-ce que le conflit, bon, parce que c'est assez vaste et complexe.
On pourrait en parler pendant 3 ans.
Exactement, et on n'a pas tout ce temps-là. Donc, en fait, le conflit oppose, en fait, le nationaliste juif, qui est Israël, contre le nationaliste arabe palestinien. Donc, on observe depuis quelques années une croissance démographique anormale face aux Israéliens sur les terres palestiniennes. En fait, récemment, je suis tombée sur un reportage sur le site Internet de Radio-Canada, les grands reportages de Radio-Canada qui sont toujours très pertinents. En fait, le nom est très équivoque. Ça s'appelle « Conflit israélo-palestinien, l'intoxication des médias américains ». Donc, déjà, juste avec le titre, là, c'est très frappant. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce reportage, en fait, met en lumière les stratégies, certaines stratégies de propagande pour garder le peuple américain en favorable à l'occupation juive en Palestine. Donc, c'est un problème qui date depuis très, très longtemps. Ce problème-là de l'Israël moderne, de la Palestine qui se fait envahir par l'Israël moderne et après la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc, cette propagande est principalement dévoilée par des perceptions. Donc, 100% de la nouvelle est livrée du côté des Juifs israéliens et sous le couvert de la légitime défense. On a à se questionner à savoir à quel point on peut se défendre si toi, tu m'envoies une roquette puis je t'en lance 100 après. Tu sais, comme, il y a quand même une question à se poser jusqu'à où se trouve la légitime défense. Et les phrases qu'on retrouve souvent dans les discours politiques face au conflit, c'est « Israël a le droit de se défendre ». D'accord, oui, c'est correct. Si je te donne une claque, donne-moi pas 15, c'est correct. T'sais, on a compris qu'Israël avait le droit de se défendre. Donc, cet effort de propagande est tellement grande dans les médias américains qu'on oublie même de se questionner à savoir quels sont les droits légitimes des Palestiniens. Donc, les gens se posent même plus la question de savoir quels sont les conflits, le conflit réel, déjà, entre Israël et la Palestine. Tu sais, il y a jamais un gentil puis un méchant dans le monde. Si on pense que c'est ça, on se trompe tout à fait.
La question est souvent évacuée, là.
Exactement, c'est ça. Donc, dans les deux camps, il y a des méchants, il y a des gentils, puis peu importe, là, si on essaie d'être basic de cette façon-là.
Cette superbe vision manichéenne de tous les enjeux internationaux.
Exactement. Donc, les Américains, ils ont vraiment un parti pris pour le conflit israélo-palestinien qui est pour Israël. En fait, beaucoup de chaînes médiatiques américaines sont de l'ordre privé. Comment on peut expliquer pourquoi les États-Unis auraient-ils intérêt à montrer une seule facette? Non seulement tu es en train, on pourrait dire, d'abrutir ta population parce que tu donnes simplement un fait des choses. Donc, il y a une grande corrélation qui existe entre des personnages politiques influents de la communauté juive et le financement dans les médias privés et dans la vie politique. Donc, dans le reportage qui est sur notre page Facebook, vous allez le voir, vous allez comprendre. C'est sûr que moi, je suis pas un expert dans le conflit, mais c'est très flagrant dans le sens que les gens, il y a beaucoup d'investissements. Les nerfs de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Donc, on le voit vraiment dans ce conflit-là. Et on pourrait même, moi, j'irais même à dire comme quoi que, bon, Israël est-il réellement, est-ce que c'est le 51e État américain? Donc, ça a se posé comme question. Donc, moi, ma conclusion face à ça, en regardant ça, c'est la faute aux médias. Oui. Pourquoi c'est la faute aux médias? On observe que les médias jouent un rôle clé dans la perception qu'ont le peuple américain sur les conflits. Moi, cette chronique-là, je la fais pour les sceptiques et principalement pour mon petit frère, parce que les gens, ils pensent pas qu'il y a des vraies corrélations entre les comportements sociétals et les médias. Donc, ça affecte le raisonnement des gens. Donc, aujourd'hui, la propagande, elle existe encore. Pour ceux qui pensent que non, c'était juste pour la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est juste pour des gens qui veulent se faire croire. Non, elle est partout, la propagande. Donc, c'est important en tant que citoyen de toujours regarder la deuxième facette, il n'y a pas toujours...
Puis c'est pour ça qu'on recommande à nos auditeurs d'écouter davantage les médias alternatifs, où vous trouverez des critiques comme celle-ci qui se différencie des discours établis.
Effectivement. On va se le dire, les médias ont vraiment un rôle très important dans notre monde. Donc, ça peut être une superbe force de se rassembler, mais ça peut être une arme de destruction massive. Donc, c'était ma pensée pour ma chronique aujourd'hui.
Merci beaucoup, Tessie. Donc, maintenant, on va se quitter en chanson quelques minutes avec Slowly Disappear de Hush Mus. Vous écoutez toujours La Photomédia sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Je voulais pas présenter en début d'émission, j'aurais dû. Camilla Rodriguez, c'est à la technique.
C'est parce qu'on pensait qu'à la technique, j'interviendrais pas en ondes, mais,
ouais. Camilla, mais tu es là, Camilla, tu es là.
Camilla est avec nous, toujours, oui, tout le temps. Elle nous écoute, elle nous épie.
Elle nous soutient.
Elle vous interrompt.
Donc, toujours une présence très appréciée. Maintenant, notre troisième chroniqueuse, Myriam Bernet, qui va nous parler encore de...
Encore
des médias américains, de Donald Trump. Écoutez, on s'excuse, mais c'est la faute aux médias. C'est les élections américaines dans à peu près un mois.
Oui,
donc,
c'est ça.
On peut se permettre d'en parler abondamment.
Exactement.
En ce moment, on parle beaucoup de cette course-là à la Maison-Blanche et on reçoit des nouvelles chaque jour, sans exception, n'est-ce pas? Donc, dernièrement, il y a quand même eu le sujet des taxes non payées de Donald Trump qui a beaucoup fait les manchettes.
Beaucoup trop.
Myriam, est-ce qu'il y a un problème?
Alors, oui et non, mais surtout oui.
Non, on s'en doutait.
Non, parce que, comme on le sait, la grande majorité des rédactions ne peut pas passer à côté d'une déclaration choc, d'une nouvelle fracassante. Il faut vendre et de toute façon, les voisins et concurrents vont aborder ces sujets à scandale. Mais si on regarde un peu plus près, effectivement, je dirais qu'il y a un problème. Alors, un petit exercice, si l'on faisait un sondage seulement dans nos entourages, nous tous et toutes qui sommes ici, il serait intéressant de voir si l'on peut obtenir des réponses à la question suivante. Pouvez-vous me citer une des propositions du programme de Clinton et une des propositions du programme de Trump? En tout cas, c'est cette réflexion qui m'est venue après avoir lu un article rédigé par Thomas Patterson, professeur à Harvard, qui a réalisé une série de 3 rapports pour le Centre Shorenstein de l'École des Affaires Publiques de Harvard. En fait, c'est une étude qui se base sur une analyse détaillée de la couverture médiatique des élections présidentielles, avec donc l'étude englobe 10 organes de presse principaux aux États-Unis. Il y a 5 quotidiens, soit le Los Angeles Times, le New York Times, le Washington Post, le USA Today et le Wall Street Journal, ainsi que 5 chaînes télévisées, parmi les principales, donc CBS, CNN, ABC, NBC et l'incontournable Fox. Donc, le premier rapport qu'il a réalisé analyse la couverture médiatique de la campagne sur l'ensemble de l'année 2015. Le second concerne la période des primaires et des caucus. Et le dernier rapport, qui d'ailleurs vient d'être publié, couvre le mois entre la convention républicaine et la convention démocratique qui a eu lieu en juillet dernier.
Donc cette étude-là, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la couverture médiatique de cette élection-là?
Bien, cette étude, pour faire rapide et vous résumer ça, parce que comme on l'a dit, on n'a pas 3 heures, elle amène à une conclusion. Les médias ne parlent pas d'idées politiques, alors que, comme on le sait très bien, à l'issue de l'élection présidentielle, des décisions seront prises non seulement à l'interne, mais aussi sur le plan international. On ne parle malheureusement que du mur de Trump, pardon, qu'il veut construire et faire payer aux Mexicains.
Mais ça, c'est tout un programme politique.
Oui, tout un programme politique.
Mais est-ce que je peux me permettre pour dire simplement, l'autre jour, pendant le débat, j'ai été voir le site internet de Hillary Clinton et de Donald Trump, puis sur le site de Donald Trump, il y a quelque chose qui m'a, vraiment ébahi incroyablement, c'est que Donald Trump propose d'instaurer un congé payé de 6 semaines pour toutes les nouvelles mères. OK, premièrement, incroyable que ça n'existe pas déjà aux États-Unis, mais oui, deuxièmement, waouh, c'est progressiste. Je veux dire, OK, ouais, c'est la seule chose qui a du sens dans son programme. Mais quand même.
C'est pour se faire excuser de tous ses propos
sur les
femmes,
exactement.
Et machistes.
Probablement, oui.
Oui, oui, c'est ça, c'est ce genre de choses qu'on ne sait pas. Et c'est quand même un peu drôle, par exemple, il y a la question aussi du terrorisme qui est abordée de temps en temps, spécialement après les derniers événements qui ont eu lieu. Mais juste par rapport aux propositions politiques de Hillary Clinton, elle représente seulement 4% de l'ensemble de la couverture médiatique qui lui est consacrée. 4%.
C'est un chiffre assez ridicule.
Ouais, totalement.
Quant à celles de Donald Trump, bon, elles ont plus retenu l'attention des médias, donc notamment sur le terrorisme, mais c'est surtout depuis qu'il s'en est pris en fait à la famille d'un officier musulman de l'armée américaine qui est mort au combat.
Donc Myriam, ta conclusion, c'est que c'est un peu la faute aux médias, donc toi aussi tu arrives à cette conclusion-là.
Nous avons la même conclusion, oui.
Tout le monde a la même conclusion aujourd'hui.
C'est fou,
Je sais pas qu'est-ce qui vous inspire, je cherche, je trouve pas.
Je comprends pas, et en plus les exemples sont beaucoup trop nombreux. Il y a la fois où on s'en souvient, Candy Crowley, célèbre journaliste à CNN, a interrogé Trump quand il avait dit que le président Obama n'était pas né aux États-Unis. Elle s'est justifiée après sur ce choix de question en disant que de toute façon, on peut pas éviter ce genre de déclaration. Et je la cite, « pas seulement parce que c'est divertissant ». En tout cas, ce phénomène de potin politique se rapproche de quelque chose d'intéressant, de ce qu'un analyste politique qui s'appelle Michael Robinson appelle des « médialités ».
Quoi, c'est ça, des médialités?
Et bonne question, Emilien. Les médialités, en fait, sont les réalités qui sont vues à travers le filtre médiatique. Ce sont, par exemple, les scandales liés à Hillary Clinton, notamment ces emails dont on a beaucoup parlé, qui ont pris à eux seuls, donc juste les scandales la concernant, c'était 11% de la couverture médiatique sur elle-même, sachant que tout à l'heure j'ai dit que c'était 4% sur ses idées politiques. Déjà là, il y a un comparatif intéressant à faire. Puis il y a l'absence de projets politiques dans les médias, et aussi le fait que pendant les conventions, juste les conventions, le seul exemple, les questions politiques ne figuraient pas du tout à l'agenda des journalistes, alors que tout ce qui est en rapport avec les sondages, les stratégies et les autres prévisions ont représenté quand même 1/5 de la couverture médiatique, contre, pour vous donner un exemple, 1/12 sur les problèmes politiques. Donc ce sont des chiffres assez intéressants, je trouve, et comme le conclut si bien l'article de Thomas Patterson, au vu de cette analyse, il est probable que les électrices et les électeurs aillent aux urnes avec les emails et le mur en tête.
Tout à l'heure, je parlais avec une collègue à moi qui étudie justement en journalisme. Puis j'avais blagué, j'avais dit, bon, ben les prochains débats qu'on va entendre, ça va être mur, 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 email,
tax. Oui, c'est ça. C'est bon. Je suis curieuse de voir la suite des choses, puis de voir comment les médias vont gérer toutes ces informations.
Mais on voit vraiment l'influence des médias, on pourrait dire, privés, tu sais. Aux États-Unis, c'est vraiment ça. Comparativement ici, c'est beaucoup plus purifié, si on peut comparer. Déjà, tu sais, on peut comparer, par exemple, TVA Nouvelles à Radio-Canada, on le voit tout de suite.
Non, c'est vrai. Ouais,
tu sais, l'influence d'un média privé comparativement à un média public. Puis on le voit, tu sais, durant le débat. Moi, j'ai écouté quelques portions, pas beaucoup, du débat présidentiel américain. Puis c'était plus drôle que c'était constructif. Donc,
ouais, exactement. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est aussi ce qu'on a vu après dans les médias, beaucoup de sujets sur les taxes et les mails et le mur. Voilà.
Un autre dossier chaud à suivre, comme toujours. Merci beaucoup, Myriam.
De rien.
Donc, je remercie encore une fois mes chroniqueuses Myriam Bernet, Tessie Jean-Paul, ainsi que mon chroniqueur Francis Terrien.
Merci.
Je remercie aussi Camilla Rodriguez-Céa à la technique.
Pas de problème.
Et aux interventions toujours aussi pertinentes.
Merci, Camilla.
C'était Emilien Roscanou. Vous écoutez La Faute aux médias. On se quitte en chanson avec River de Croix.